Brenige FM.
Pays de Brive.
95.5.
Chaque vendredi à 18h, romanciers, écrivains ou éditeurs locaux et régionaux vous donnent rendez-vous dans Radio en Hauteur. Découvrez les univers parfois étonnants de ces passionnés d'écriture le vendredi à 18h dans Radio en Hauteur, c'est sur Brenige FM 95.6. Et voilà, bienvenue dans Radio en Hauteur, 18h de Margarita avec vous pour cette émission du vendredi. Hélas, nous n'avons pas pu assurer la semaine dernière en raison des conditions météorologiques, mais ça y est, nous revoilà de retour. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir pour invité Bernard Groom. Bernard Groom, bonjour. Bernard Groom, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Margarita. Bonjour. Vous êtes d'origine franco-australienne, il faut bien dire. Voilà. Et vous êtes ici pour nous parler d'un ouvrage, mais de votre ouvrage également, parce que vous étudiez en ce moment, depuis longtemps, je crois, une œuvre qui a pour titre Un cours en miracles, ce qui peut paraître un peu bizarre. On pense à la cour des miracles, mais ça n'a rien à voir du tout. Voilà. En fait, c'est un livre plutôt philosophique que moi, personnellement, je qualifierais de New Age, mais vous allez pouvoir vous défendre, bien sûr, qui prône une certaine théologie universelle. Je ne sais pas, j'ai pas bien tout saisi, en fait, dans la consultation de cet ouvrage. Vous allez pouvoir donc éclairer notre lanterne. Tout d'abord, pour présenter globalement le livre, c'est un ouvrage qui peut paraître un peu biblique.
Oui, ça pourrait à premier abord, justement à cause du langage, ce qui a été effectivement un point de pour faire trébucher pas mal de gens. Mais en fait, il faut considérer que c'est juste un langage pour présenter un message qui est plutôt à la base oriental, si on cherche à chercher à catégoriser en famille de spiritualité. Il faut plutôt s'orienter vers l'hindouisme ou surtout le Vedanta Advaita et le bouddhisme. Là, on va voir ce que cette œuvre a été appelée à des différents moments. En fait, une sorte de Vedanta plutôt occidentalisé.
Parce qu'il y a quand même des références à la Bible chrétienne.
Exactement. Sauf que dans cet ouvrage, on retourne les concepts bibliques pour dire autre chose. Là où, par exemple, la Bible peut laisser les gens avec une image de conflit ou de haine des fois, parce que certains passages, il faut dire, dans la Bible sont assez durs. Là, c'est un ouvrage qui est dédié à retourner tous les concepts, prenons Saint-Esprit, expiation, Jésus, Dieu, pour les redonner vraiment une allure d'amour, de tendresse, de gentillesse et de compassion.
Alors c'est apparemment aiguillé sur trois axes, avec, pour résumer, trois grosses personnalités. Einstein, on va dire, c'est la science. Bouddha, ça va être plutôt la réflexion, la sagesse. Et Freud, pour les émotions.
Oui, en fait, ça, c'est une façon que moi, j'ai trouvé pour formuler ces trois grands axes. Je dirais pas forcément que d'autres enseignants du cours diraient la même chose. Je dis juste que si on prend un pas de recul, ce livre répond à trois grandes questions pour nous. Qu'est-ce que c'est la nature de ce monde physique? Qu'est-ce que c'est notre objectif dans ce monde soi-disant physique, et qu'est-ce que c'est la nature du soi, de moi-même, qui se promène tranquillement dans ce monde, et des fois peut-être pas très tranquillement.
Et donc, à partir de toute cette... c'est une réflexion de deux personnes. Hein. Revenons un peu sur l'historique. À l'origine, en 1975-76, deux personnes, deux Américains...
Oui, exactement.
Ont effectivement écrit ce livre. Mais dans quel but? Donc, on peut vraiment parler New Age, parce que c'était en la pleine période, là.
C'était dans la pleine période du New Age, et j'y étais pas loin de ce temps, dans cette période-là, en fait. J'y suis arrivé à New York en 1987. J'ai passé un an là-bas. En fait, j'y étais à Boston déjà auparavant, à partir de 1983, à faire mes études. Mais en fait, on ne dit pas trop que ça fait partie du New Age, mais plutôt que c'est une œuvre à la base philosophique et psychologique qui, effectivement, a été intégrée dans le mouvement du New Age, mais qui tient un petit peu une place à part. L'objectif du livre à la base, c'était répondre à une question posée par deux docteurs en psychologie rattachés au CHU, le Centre Hospitalité de l'Université de Columbia à New York. Donc deux personnes, notamment le chef du département de psychologie et l'un de ses professeurs qui travaillait avec lui, ils avaient des relations de conflit très aiguës au sein de leur département et interdépartemental avec d'autres sections de l'université. Un jour, ils en avaient marre, ils se sont regardés, ils se sont dit « il doit avoir une autre façon de faire ». Peu de temps après, Dr. Ellen Schuckman commence à recevoir une sorte de voix intérieure qui lui dit de prendre dans les notes « ceci est une cour en miracle ». Tout affolée, elle appelle son chef du département, Bill Thetford, à je ne sais pas ce que c'était, 2 heures du matin. Et voilà, elle présente son dilemme et elle prend pensée qu'effectivement, elle subissait une forme de psychose. Il a dit non, je n'y croyais pas, parce qu'il avait lu déjà un petit peu sur les expériences mystiques. Il pensait que c'était plutôt de l'ordre mystique. Il lui a dit tout simplement, conseiller de faire ce que le voix lui demandait de faire. Donc, pendant 3 ans, effectivement, elle continuait à écrire ses notes dans une sorte de sténographe qui était particulier à elle. Et par la suite, c'était Bill Thetford qui transcrivait, qui tapotait à la machine pour retranscrire. Et voilà, l'œuvre, après 3 ans d'écriture, de travail ensemble, est devenue ce que nous appelons aujourd'hui un cours en miracle. Mais c'était une grande surprise pour tous les deux.
Mais vous décrivez un peu le phénomène de l'écriture automatique qu'ont repris après les surréalistes français. Avant, je veux dire, elle a écrit sous l'impulsion d'un mysticisme intérieur.
L'écriture automatique, souvent, on a plutôt l'impression que la personne n'est pas consciente de ce qu'elle écrit. Là, elle était complètement consciente. C'était plutôt une sorte... Elle disait que c'était plutôt une sorte d'enregistrement intérieur. La voix était présente là, elle pouvait l'arrêter, le redémarrer. Elle était consciente à chaque instant de ce qu'elle était en train d'écrire, à son grand désarroi des fois, parce qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ce qui était en train d'être écrit. Elle-même, elle était athée.
Elle avait une espèce d'ubiquité, ou c'est pas une schizophrénie de toute façon.
Ce qu'elle craignait justement. Ouais. Mais s'il n'avait pas été épaulé justement par le chef du département, elle se serait fait interner, je crois. Justement, mm-hmm. elle craignait une grande crise.
Effectivement. Donc ce livre a quand même eu un certain succès. Le tirage, c'est énorme, 19 millions d'exemplaires, c'est ça?
Je voudrais bien, mais c'est peut-être 1,9 million.
Et puis, bah, c'est quand même pas mal. Et oui. Traduit dans 16 langues.
Dans 19 langues, mais oui, voilà, il y a un programme de traduction importante qui a lieu en ce moment. Et puis, voilà, ça a connu un certain succès, mais je crois, comme mon professeur, en fait, Dr. Kenneth Wapnick, il va falloir que j'y glisse son nom un petit peu dans cette émission, uniquement parce que c'est lui la troisième personne dans cet triangle entre Dr. Schuckman, Bill Thetford, et puis, voilà, par la suite, c'était Kenneth Wapnick qui est venu en jeune diplômé, docteur en psychologie, pour les épauler, pour faire la mise en forme de l'œuvre, et qui est devenu par la suite le plus grand enseignement, on peut dire, le plus reconnu de statut international. Voilà.
Et c'est quand même un livre conséquent, hein, 1200
oui. pages. 1200
pages. C'est quand même une mine, et un pavé, on va dire. Mais en fait, on va parler de la conception dans quelques instants. C'est conçu sous forme de chapitres, comme la Bible, par exemple.
En fait, quand l'œuvre est venue à Helen Schuckman, c'était écrit d'un seul trait, sans pause ou sans cassure, sans forme. Donc c'était à Helen et puis Kenneth par la suite à faire la mise en forme. Ils l'ont divisé en 3 parties assez évidentes, un texte, un livre d'exercice et puis un manuel pour les enseignants. Le texte, il fallait diviser en chapitres. Il y a 31 chapitres avec des sous-divisions pour justement faire beaucoup plus facile à la lecture que vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas facile du tout.
En fait. Non, c'est assez, quand on est néophyte comme moi, par exemple, on a du mal à vraiment à saisir le concept, parce qu'il y a un concept quand même à la base, et à démêler un peu les influences, d'une part,
oui.
La logique, effectivement.
Oui.
C'est
difficile.
C'est pas abordable de premier abord. Et c'est bien que vous ayez écrit peut-être un ouvrage d'initiation, dont on parlera d'ailleurs largement tout à l'heure. On va d'abord parler du sujet sur lequel vous avez écrit pour essayer de comprendre. Et puis, à partir de ce moment-là, peut-être que c'est plus abordable pour les personnes qui ne sont pas du tout initiées à ce genre de littérature. Voilà.
Oui.
Je vous propose de faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien.
D'accord.
Et on revient tout de suite après Indochine, Alice et June, pour reparler donc de cet ouvrage, Un cours en miracle, et le vôtre aussi, qui s'intitule Polo et le magicien.
Parfait.
Merci.
Brenny FM.
FM. À Brive, avec vous.
18h16, c'est Radio en hauteur. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Bernard Groom, qui s'intéresse depuis longtemps à un ouvrage qui est publié aux États-Unis principalement, mais aussi en 16 langues, tiré à 1,9 million d'exemplaires et 1200 pages. C'est une espèce de Bible New Age, pour résumer la chose. Bernard, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous laisse la parole. En tout cas, on a essayé de présenter l'ouvrage, qui est quand même assez complexe hein, pour les néophytes. Et vous avez vous-même fait un livre, publié un livre, pour tenter d'expliquer ou, entre guillemets, vulgariser cet ouvrage pour qu'il soit plus accessible au plus grand nombre d'entre nous. Pour résumer, c'est une philosophie moderne qui s'inspire de trois concepts, Einstein, la science avec Einstein, le bouddhisme avec Bouddha, et également la psychologie avec Freud. Donc, nous en étions à l'articulation du livre. Vous m'aviez dit que donc, c'était un peu, enfin, pas vraiment comme la Bible, c'était au départ rédigé en écriture quasi automatique, et ensuite ça a été fragmenté, organisé, conceptualisé. Alors, est-ce qu'il y a un chemin, un fil rouge? Est-ce qu'au début, il y a une introduction? Ensuite, est-ce qu'il y a une évolution jusqu'à une conclusion, quoi?
En fait, on pourrait dire que ça a été écrit non pas d'une façon linéaire comme la plupart des textes, mais d'une façon plutôt, si on réfléchit à une symphonie, ils introduisent une trame et puis la trame est retravaillée, changée et on revient dessus. C'est-à-dire que quand on lit le cours de A à Z de chapitre 1 à la fin, on n'a pas une suivi linéaire, mais plutôt on a l'impression que ça travaille par couches. Et donc, on commence avec une première couche, c'est retravaillé plus en profondeur, et on avance plus en profondeur, et on retouche les mêmes thèmes, au lieu de bâtir sur un thème, et puis après on passe à un autre, d'une façon très logique, on revient sur les mêmes idées, on revient sur les mêmes thèmes, mais avec de plus en plus de profondeur.
Et quels sont ces thèmes, les grands thèmes de la vie, quoi? Je veux dire, la liberté, l'amour.
Ça commence avec une histoire, une sorte de légende de séparation, pour expliquer, pour donner une structure à notre expérience ici dans ce monde. Comment expliquer que nous sommes ici? Nous avons tous une conception de l'arrivée de ce monde, de l'invention de ce monde, le cours. La sienne aussi. Donc il commence par cette mythologie d'une séparation d'avec notre origine, une sorte de source d'unité d'amour. Par la suite, il y a eu une sorte de fragmentation, une illusion et après la création de ce monde, le Big Bang, d'où justement cet axe sur Einstein, qui est ma fabrication, qui n'est pas vraiment l'axe du cours, mais c'est ma façon d'aborder ce sujet, ce qui est la création de ce monde et notre place dans ce monde. Et puis, petit à petit, on fragmente de plus en plus pour arriver dans ces corps. Donc, le cours explique cette histoire et par la suite, il explique notre expérience corporelle. Comment nous expliquons notre propre expérience personnelle à partir du moment que nous nous réveillons le matin, nous nous regardons dans la glace, on se dit bonjour dans la glace, on se serre la main et puis on commence la journée, on sort par la porte d'entrée et on s'introduit dans le monde en tant qu'un être humain. Et en imaginant, on va avoir plein de différentes relations, interactions avec d'autres personnes.
C'est la vie sociale, quoi.
Pardon ?
C'est la vie sociale.
La vie sociale est très importante dans cette œuvre, dans le sens que ça parle presque uniquement de relations avec autrui, avec ce que ce livre appelle nos frères. Et puis, plus spécifiquement, nos perceptions des autres. L'œuvre est basée sur le concept d'une séparation avec notre source, un peu dans le sens bouddhiste. Mm. L'origine de tout est un ensemble, est une unité. Nous avons l'expérience de fragmentation, d'être les petits morceaux de corps et de chair. Donc, il y a eu un phénomène psychologique qui produit nos perceptions d'être un individu en train d'avoir une relation avec d'autres individus. Des fois qui nous font du bien, des fois qui nous font moins de bien. Donc, le cours focalise sur cette expérience sociale, si vous voulez, nos interactions avec les autres pour comprendre la nature de nos perceptions des autres, qui est pour la plupart basée, ou très souvent basée, sur une sorte de grief, une plainte. Beaucoup d'entre nous comprennent l'expérience de souffrir aux mains des autres. Même, on n'a pas besoin forcément de parler de souffrance, mais d'être embêté, agacé par les autres. Tout ceci est basé sur l'idée que je suis séparé de ma source. Si ma source, l'origine de tout, dans un sens, mais dans la façon orientale, c'est l'amour, si je suis agacé par quelqu'un, en quelque sorte, ça veut dire je ne suis plus dans ma source, dans cette origine spirituelle. Je suis maintenant basé dans cette petite enveloppe très charnelle et j'ai l'impression qu'il subit des effets des autres. Il subit.
C'est un peu pour reprendre la fameuse phrase « Dieu est dans tout ». Est-ce qu'il y a aussi un aspect, comme dans le bouddhisme, animiste, voilà, c'est ça, la relation avec le matériel, les choses, éventuellement la résurrection?
Non, on ne parlerait pas d'animisme, on parlerait même pas vraiment de l'esprit de Dieu dans toute chose en soi. On dirait que tout... Dieu, on peut dire, il y a même des leçons à cet effet, que Dieu est en toute chose, mais uniquement dans la façon que chaque chose dans nos vies, ça peut être une œuvre d'art, une symphonie, une fleur ou autre chose, peut nous rappeler de cet amour originel qui nous anime, qui est au fond de nous. Donc on peut dire que Dieu, ou cet esprit d'amour, parce qu'effectivement le mot Dieu est une sorte de mot de code, oui, pour l'amour, pour l'unité, pour cet énorme espace autour de nous qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut appeler par le mot amour, est en tout, dans le sens que tout peut nous rappeler de ça.
Parce que tout à l'heure, on faisait comme référence à la Bible, il y a quand même pas mal de, justement, le nom de Jésus est cité quand même. Vous faites quand même beaucoup de références, je le disais tout à l'heure, chrétiennes. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est rattaché à la religion chrétienne, quelque part?
Je pense que c'est plutôt la religion chrétienne qui ne sera pas très content avec ce lien. Le livre a été plutôt considéré une hérésie par l'Église catholique. Et pour bonne raison, c'est-à-dire la Bible est le cours par chemin, quitte leur oui, chemin, à partir du premier oui. chapitre de la Bible, quand Dieu crée ce monde, le cours va dire, non, c'est pas Dieu qui a créé le monde. Donc nous sommes responsables pour la création du monde dans l'esprit. C'est un phénomène à l'intérieur de notre esprit. Un peu d'ailleurs ce que les scientifiques commencent à soupçonner, que c'est...
Jésus et le Bouddha, vous semblez dire que le Bouddha est antérieur au Christ, c'est ce qui est vrai historiquement. Et alors, il y a des thèses qui s'appuient là-dessus, qui reprennent les évangiles. On nous dit que jusqu'à l'âge de 12 ans, on nous parle de la vie du Christ, on nous dit qu'il grandit en sagesse, et puis pouf, plus rien. Puis vers 30 ans, il quitte son père, charpentier, et là, il part enseigner. Et certains se sont glissés dans ce trou, dans l'emploi du temps de Jésus, pour nous dire, oui, Jésus, il est parti en Inde s'inspirer des philosophies bouddhistes, et il rattache aussi ça à la venue des rois mages qui seraient venus, eux, à la naissance de Jésus, apporter cette sagesse des philosophies et des croyances asiatiques. Alors, est-ce que c'est là la filiation?
On va partir plutôt sur ces bases-là.
Voilà donc Jésus est, une fois son initiation, ça c'est entre guillemets, puisqu'on ne sait pas, une fois son initiation aux philosophies orientales terminée, revient dans son pays, en Palestine, et enseigne cette philosophie qui en somme est faite aussi d'amour, de tolérance.
Oui. On sera plutôt dans ce registre-là. À savoir aussi qu'il faut peut-être prendre cet instant pour parler des pères gnostiques, des autres testaments qui n'ont pas été inclus en fait dans la Bible, puisqu'en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'enseignement de Jésus. La Bible, les théologiens ne sont pas tous d'accord si la Bible représente vraiment les paroles de Jésus. Et il faut voir un petit peu plus large pour inclure, par exemple, les écrits des manuscrits de Nag Hammadi, découverts en Égypte, et puis qui sont une meilleure représentation peut-être de l'ensemble de l'enseignement de Jésus, qui commence à parler, qui ses écrits, le Gospel de la vérité, et d'autres œuvres qui ont été influencées semblablement par Valentinus, c'est des choses qui commencent à introduire un élément beaucoup plus oriental dans l'enseignement de Jésus, que Dieu est à l'intérieur, pas besoin de chercher à l'extérieur, certainement pas dans une hiérarchie quelconque. L'expérience de Dieu, c'est quelque chose qui se passe effectivement entre les hommes, mais dans les perceptions des autres. Le cours va prendre cette atmosphère orientale et développer beaucoup plus.
Vous parlez de cours, mais c'est vrai qu'il y a des leçons dans ce livre. Ça marche par leçons, il y a 365 leçons, c'est comme ça?
Voilà.
Ça marche.
Oui.
Une leçon par jour pour progresser.
Oui, on voudrait bien croire, surtout, moi je suis le premier, je voudrais bien croire qu'effectivement après 365 leçons, je suis capable de faire des miracles. Malheureusement, c'est pas tout à fait la vérité. D'abord, il faut dire qu'un miracle n'est nul autre qu'un changement de perception. C'est tout ce que c'est. C'est un déplacement de l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. C'est tout. C'est loin d'être la seule spiritualité qui parle de ce genre de façon contemplative, de regarder les questions de la vie. Donc il y a moins de mystère ou moins d'occultisme par rapport à ce terme-là que ce que les gens ils peuvent croire.
C'est-à-dire un miracle, c'est une illusion d'optique. C'est par exemple quand Jésus a ressuscité Lazare, c'était.
Le cours dirait plutôt, je dirais que tout ce qui se passe à l'extérieur dans ce monde ici n'a pas une énorme signification. Et relation avec le vrai miracle. Il peut se passer plein de différentes choses de ce monde ici sans qu'il y ait un vrai changement à l'intérieur pour nous apporter de la paix. On voudrait bien croire que quelqu'un est capable de changer de l'eau en vin, et ça peut être bien pratique pendant une fête, mais en réalité, ça ne va pas nous apporter plus. C'est un peu compliqué puisque d'autres gens vont dire « Oui, mais si j'avais un pouvoir miraculeux pour arrêter une guerre, ça commence à être plus compliqué. Il faut entrer plus dans la nature de la guerre, la raison pour la guerre. Les guerres ont des raisons d'être là, ce n'est pas par accident. Donc le miracle, c'est plutôt quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est un changement d'attitude. C'est surtout l'instant quand je commence à dire « Ce n'est pas l'extérieur qui est en train de me déranger, c'est quelque chose à l'intérieur qui me dérange. »
Donc ça n'a rien à voir avec la notion de miracle qu'on a dans le christianisme, par exemple les guérisons spontanées, etc.
Non.
D'accord.
Non.
Il fallait quand même bien insister sur
exactement.
Ce terme.
Ouais.
Vous faites allusion à ces autres évangiles, les évangiles apocryphes, l'évangile de Judas qui a été retrouvé il y a pas très longtemps. Alors, ces évangiles qui ont été mis de côté par l'Église, pour revenir aux quatre évangélistes, et l'Église, on parle de Dieu à l'intérieur de chacun de nous, et l'Église semble dire dans son message, dans sa doctrine, que l'approche de Dieu ne peut se faire que par l'intercession des saints, de ses représentants du clergé. Et là, on sent que c'est le contre-pied. Dieu est immédiatement accessible sans qu'il soit besoin d'intercéder par le prêtre, par le saint, par tous ces gens qui connaissent la foi et l'expliquent.
Ce qui peut expliquer très bien pourquoi ces autres gospels n'ont pas été inclus dans la Bible, qui ont été compromis quand même l'autorité de l'Église en formation.
En fait, c'est pas une religion, ce livre. C'est
du,
pas
du tout. Ceux qui en
c'est
ont
une philosophie.
Fait, ou, ah oui, c'est vraiment une philosophie. C'est des points de réflexion. C'est surtout une façon. Le livre est là pour nous joindre avec notre propre source de sagesse à l'intérieur. Chacun a une voie vers cette autre sagesse, cette autre réalité, cette autre explication pour les choses, une autre façon de faire sa vie, restant toujours exactement dans les mêmes scènes de sa vie. C'est pas une question de changer sa vie, mais quand je vais au travail, quand je lutte avec la circulation, avec les voisins, avec les collègues au travail, c'est une autre façon de regarder tout ça pour apporter plus de paix.
On aime bien mettre des étiquettes, hein.
Parce que
c'est plus clair dans notre esprit, peut-être. On peut plutôt aller vers le développement personnel, alors, à ce moment-là.
On peut dire qu'il y a un aspect du développement personnel, sauf, ça se rattache peut-être plus dans la famille du développement personnel, sauf que, je dirais, pour être un petit peu rebelle, c'est pour défaire la personnalité. C'est-à-dire, on se développe et on a l'impression de s'améliorer. Si on continue avec le cours, on va se rendre compte à un moment qu'il nous encourage, en fait, son chemin commence à défaire notre sens de personnalité, ce que, dans le langage du cours, c'est notre particularité. Tout ce que je crois que je suis doit devenir moins important dans ma perception. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un me fait un tort, je dois le relativiser. Je dois apprendre à dire, est-ce qu'il est vraiment en train de me faire un tort? Qu'est-ce qui est en train de tourner chez lui pour qu'il se sente obligé de me faire mal? Il doit se passer quelque chose chez lui. Il ne peut pas être tout à fait bien dans ses pompes non plus s'il se sent l'obligation de m'humilier ou de faire les racontars sur moi ou je ne sais pas quoi. Donc, au lieu de prendre personnellement tout ce qui se passe autour de moi, celui qui m'a fait une queue de poisson sur la route, est-ce qu'il l'a fait à moi? Donc on commence à prendre un petit peu de distance en pratiquant ces leçons avec ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et commence à dire, je ne suis pas obligé de prendre tout ceci si personnellement. On peut parler de développement personnel, mais en fait, à la fin, c'est la déconstruction de notre personnalité.
De notre perception des choses aussi.
Déplacement ou changement de nos perceptions, absolument. Mm-hmm. Ouais. De nos perceptions anciennes.
On va en reparler plus précisément tout à l'heure, justement, et avec des exemples concrets, puisque vous avez réalisé des vidéos sur Internet pour bien que l'on ait des repères très concrets dans la vie réelle. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve tout juste après, et on parle donc de ces vidéos, on reparle également de votre ouvrage à vous, Polo et le magicien.
Merci.
À tout de suite.
Can't stand me now. Can't stand me now.
Rémi Jeffel. À Brive, avec vous.
Thank you.
Rénig FM. Et Brive vibre.
Voilà, c'était Laurent Voulzy à l'instant avec ce titre magnifique Jeanne, extrait de son dernier album. Vous êtes sur Rénig FM, c'est Radio en hauteur. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Bernard Groom pour un ouvrage qu'il a écrit, un roman philosophique ayant pour titre Polo et le magicien, en référence et on va dire en introduction à un autre ouvrage que l'on peut entre guillemets qualifier de Bible New Age. Un cours en miracle, un ouvrage de 1200 pages écrit en 1975-76. Bernard Groom, vous faites des conférences assez souvent et justement sur Sarlat, vous avez commencé à faire un certain travail au centre culturel.
Voilà, en fait, c'est en train de se monter. Je commence déjà un travail, j'ai déjà commencé un travail de conférence à Sarlat, et ça va se concrétiser dans la forme de séances régulières, si vous voulez, au centre culturel. Voilà. C'est l'idée, c'est de pouvoir offrir maintenant un portail, un endroit où les gens peuvent venir s'intéresser à cette œuvre s'ils souhaitent en savoir plus.
Et comment ça marche? Sous forme d'atelier, vous faites c'est un cours vraiment
Je dirais que c'est un mélange de cours et de discussions. C'est-à-dire que je suis assez informel de nature. Donc, s'il y a des questions, je prends des questions. Si ça fait orienter la discussion dans une certaine direction, je fais un peu avec le groupe, mais toujours dans un sens de développer de plus en plus les différents concepts. Je travaille avec un groupe de 10 personnes déjà depuis quelques mois. Ça se passe plutôt comme ça. Moi, j'ai une idée du développement des concepts. Et des principes, et puis, mais au fur et à mesure les réunions se passent, il peut avoir un sujet ou un autre qui est à l'ordre du jour, donc on le prend, comme ce qui s'est passé avec cette vidéo, mes fâcheux voisins. Le point de départ, voilà. C'était... Voilà,
C'est ce que je disais tout à l'heure, on va prendre un exemple concret. Vous avez des voisins qui sont vraiment qui vous pourrissent la vie. Donc dans une vidéo, vous expliquez un peu comment faire pour se détacher. Vous travaillez à 7h le matin, il faut que vous vous leviez tôt. Eux, ils font la java jusqu'à pas d'heure la nuit. Vous pouvez pas dormir, ça porte sur les nerfs. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui,
alors comment être zen, entre guillemets, face à cette situation?
Bon, on peut imaginer quand même que ça vient pas non plus en claquant les doigts. L'idée ici, c'est, comme vous avez dit, de commencer à prendre un peu de distance avec la situation et savoir que ce n'est pas en train de m'arriver à moi personnellement. C'est-à-dire, ce n'est pas un affront, d'accord, c'est un dérangement dans mon environnement, mais il n'y a rien qui m'oblige à le prendre personnellement, quelque chose contre moi. Bah, d'abord, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il faut dire qu'en aucun cas, est-ce que ceci veut dire qu'il ne faut pas aller frapper sur la porte des voisins. Donc, on peut être aussi zen qu'on veut, ça n'empêche pas d'aller demander aux gens, voilà, de faire un peu plus attention, ceci, cela. C'est une question, avant qu'on frappe sur la porte, est-ce qu'on vient avec l'agressivité, avec un sens d'opposition, ou est-ce qu'on vient avec une attitude beaucoup plus, qui réfléchit beaucoup plus, qui est beaucoup plus contemplatif par rapport à la nature du dérangement en moi. Donc, il est 2h du matin, moi je suis dans mon lit, les voisins, ils entrent, eux, ils ne partagent pas exactement la même vie que moi, plutôt vie nocturne que diurne. Voilà, déjà, ça commence. Qu'est-ce qui se passe en moi? Nous disons qu'à l'instant, je commence à sincèrement me déranger au fond vraiment d'agacement. Quand ça commence à percuter au fond de moi, je commence à sentir ce tam-tam comme si c'est mon cœur. On peut dire que voilà, je suis arrivé à cet instant à 2h du matin déjà avec une certaine
agressivité en toi.
Exactement. Bon, j'allais dire plutôt un déséquilibre ou plutôt séparation de notre état d'origine qui est l'amour.
Mais l'émotion a pris le dessus, quoi.
L'émotion, on peut dire presque que l'émotion était déjà là, mais en potentiel ou naissante. C'est-à-dire c'était là et il suffisait juste d'une étincelle pour le faire vivre. Et donc, mes voisins arrivent, j'explose, mais j'explose aussi parce que peut-être dans la journée, il y a eu peut-être une multitude de petits agacements et je n'ai pas retrouvé la paix, une vraie sens de tranquillité en moi. Le cours nous encourage toujours de revenir à une base qui dit « Si je ressentais en moi la vraie profondeur de l'amour qui existe dans cet univers, je ne serais pas agacé par ceci, cela, par celui qui m'a coupé la route ce matin, par la personne qui a parlé du mois demain, par le bruit des voisins. »
Mais le lendemain, vous êtes fatigué.
mais le fait qu'on est fatigué peut être aussi un signe que j'ai passé ma journée en dehors de cet enracinement, en dehors de cet endroit qui est la tranquillité. Quand je suis fatigué, je suis le premier pour le dire aussi, Je constate que j'ai fait une bonne partie de ma journée avec un certain stress déjà.
Oui, mais pas toujours, Phil.
Oui, alors il y a quelque chose que je trouve très, très significatif. On a pris l'exemple de ses voisins. Alors, le cours, cette approche des choses que vous nous proposez, alors, est-ce qu'on s'en éloigne pas? Alors, sur l'exemple des voisins, parce que aujourd'hui, on sait que les tribunaux sont encombrés par ces conflits entre voisins. Ils explosent, les avocats ne font plus que ça, des conflits entre voisins. C'est une source permanente de l'activité judiciaire. On ne supporte plus le voisin. Alors, d'un côté, nous avons vos enseignements, ce que vous nous révélez, puis de l'autre côté, une réalité qui est complètement à l'opposé.
Parce qu'il faut continuer à subir son voisin sans rien dire,
oui,
ou appeler la police.
C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il ne faut pas s'empêcher non plus d'aller frapper sur la porte du voisin.
Bon, mais ça peut dégénérer.
Faites comme bon vous semble, mais bon, si vous voulez finir au tribunal, là il y a une réception. Donc non, l'idée d'une spiritualité comme le cours ou comme un autre, c'est de trouver plus de paix en soi, c'est de se rejoindre avec une sorte de source ou quelque chose qu'on sait tous, il y a notre façon de faire cette vie ici, au lieu de faire toujours dans le conflit. Effectivement, il y a multiples exemples autour de nous, des gens qui ne pensent pas pareil. Voilà, ils pensent que l'objectif, c'est de se défendre, de passer à l'attaque avant que l'autre passe à l'attaque sur moi. Voilà, je regarde après mes affaires.
Il y a quand même des choses qui ont vécu en société. L'incivisme, ça existe.
Exactement. La question, c'est toujours... comment moi je veux gérer mon expérience de l'extérieur, de ce qui se passe autour de moi. Je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas contrôler la vie. autant que je voudrais, autant que je vais peut-être même essayer, quitte à utiliser peut-être des fois la manipulation. Et pourtant, je sais très bien que quand je manipule, c'est assez rare que je me sens bien après. C'est assez rare. Donc, si on est soucieux vraiment pour son bien-être, pour la paix en soi, on va commencer à regarder tout ça et dire, si je veux vraiment être plus tranquille en moi, il va falloir que je commence à décider d'être heureux en moi, ou dépend peut-être d'une certaine solution extérieure. C'est-à-dire, je sais que si j'attaque cette personne, je vais peut-être avoir ma solution, ce que je veux. Mais à quel prix ? Si je perds complètement mon bien-être intérieur, juste pour pouvoir gagner dans cette situation, est-ce que ça valait la peine ? On commence à prioriser un peu plus son sentiment intérieur, son expérience intérieure, qui commence à nous reculer de la situation. Et on commence à se rendre compte qu'on est moins affecté par une telle situation que ce qu'on croyait.
C'est là qu'on rejoint les philosophies asiatiques, orientales, ça, c'est tout à fait dans cet esprit.
Exactement. Ouais.
Détacher des choses,
Et cet détachement, il arrive, il vient tout seul en se posant certaines questions que justement sont dans ce livre d'exercices, 365 exercices pour, bien sûr, chaque jour d'une année. L'idée, c'est d'ici commencer à discipliner son esprit, de poser des questions et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe.
Et est-ce que c'est uniquement spirituel ou bien est-ce qu'il y a également des exercices de genre yoga, relaxation, tout ça ? Non.
Non, il n'y a aucune recette de bien-être physique.
C'est juste une réflexion.
Exactement.
Sur soi.
Une
introspection ?
Introspection, contemplation, si vous voulez, mais introspection, c'est aussi très bien, exactement. C'est en fait, on considère, il y a des gens qui n'aiment pas trop le cours parce qu'ils considèrent que c'est trop intellectuel. Parce que ça passe, on passe pas mal de temps dans une partie cérébrale, entre guillemets, de notre esprit, en train à réfléchir, à regarder ce qu'on est en train d'expérimenter et de penser, nos pensées. On peut même les noter pour connaître le contenu de notre esprit, le contenu de nos pensées, pour les réfléchir et pour voir si on veut les garder.
Et pendant ce temps-là, on n'entend pas les voisins.
Disons, c'est curieux que vous le dites. C'est intéressant parce que si on le pratique comme ça, on commence à voir et entendre différemment. Et on commence à dire, c'est juste un bruit en fait. Il n'y a personne qui est en train de me faire quelque chose. Par exemple, si j'étais dans une fête moi-même, si c'était ma fête, les gens ils étaient en train de jouer une musique, moi je dirais, mettez le plus fort, là c'est pas assez fort. Or, quand c'est moi, je suis dans un autre contexte, je veux dormir et tout ça, soudain, cette même musique, peut-être le même tube que j'ai écouté moi-même il y a 2 heures, soudain, ça devient un affront. Donc, tout est perception et interprétation.
Il faut recadrer la situation, l'analyser. Voilà, il y a tout un travail, intellectuel à faire.
Oui, de réflexion, d'écouter ce qui est en train vraiment de se passer autour de soi.
L'objectivité, d'être un peu plus...
L'objectif est très important.
Essayer d'être objectif, quoi.
D'être objectif et de se demander ce que c'est son objectif aussi. Qu'est-ce que je veux de cette situation ? Est-ce que je veux entrer dans la guerre ou est-ce que je veux la paix maintenant, même aux dépens de mes jugements et de mes critiques que normalement je lancerais sur ces gens-là ? Est-ce que je serais... apte ou disposé à me couper la parole, à dire non, j'ai pas envie de juste passer à l'attaque à ces gens-là.
Le temps tourne très vite. 2 mots sur votre ouvrage à vous. Polo et le magicien.
Oui.
Alors, c'est un roman philosophique, vous dites, pour expliquer justement, c'est une espèce d'introduction à un cours en miracle. Rapidement, dites-nous de quoi ça parle.
Ça parle du cours. Ça parle du cours, c'est simplement que puisque, exactement pour les mêmes raisons que vous aviez élucidées tout à l'heure, que le cours est assez difficile à aborder, assez difficile à travailler, question de langage, concept, plein de différentes choses, je voulais faire au plus simple. Je voulais prendre les principes, prendre l'enseignement du cours, même l'expérience du cours, et le mettre dans une forme la plus abordable pour que quasiment un adolescent, même un enfant, puisse le lire. Et j'ai eu le cas d'une maman qui l'a lu à son enfant qui avait 10 ans, il a adoré. Par contre, ce n'est pas destiné aux enfants, c'est vraiment dans la trame du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mmh. C'était un peu, je me suis inspiré de ce style-là, je voulais que ça reste dans cette atmosphère fablesque.
Ça se situe aussi à l'époque médiévale.
Médiévale, voilà, vers les 1200. Et voilà, c'est un garçon qui a à peu près 14 ans, qui vit dans cette ville qui s'appelle le domaine, ou la ville, qui est très malheureux dans sa vie. Il est marchand de petits bois sur la place du marché. Il a perdu son père il y a un an. Il vit avec sa maman, qui est très dure avec lui, et son frère qui a très peur de tout. Mais lui, il est plutôt téméraire. Il a pris l'habitude, en fait, de faire les bêtises, quitte à même aller jusqu'aux limites du domaine. Le domaine qui est entouré par un mur forteresse, ce qui est considéré un endroit très dangereux par les villageois qui restent enfermés à l'intérieur le plus proche qu'ils peuvent du centre-ville. L'idée, c'est que en fait, il y a des grands dangers vers le mur.
Ça me rappelle un film, Le Village, il me semble.
Le Village.
Peut-être bien.
Où on a peur de ce qui est...
Oui, de ce qui est à l'extérieur.
Voilà.
Oui. On a toujours peur de ce qui est à l'extérieur de nous.
De l'inconnu,
mais
oui.
L'idée, exactement, c'est que simplement, si on explore les frontières de la conscience, on commence à avoir peur. Et l'idée, c'est d'avoir une certaine confiance et courage de vouloir explorer son propre esprit. Pour avoir le courage de Paolo et passer, franchir le mur pour voir ce qui est de l'autre côté. Et là, justement, il découvre une paix absolument magnifique. Là où les gens pensaient que tout était horreur, dragon et feu, il trouve que du soleil, des champs à perte de vue, une paix magnifique. Et il rencontre justement un personnage assez énigmatique qui est le magicien, Zéfaro le magicien, qui devient son mentor, le sage, et qui lui apprend justement ce qui lui arrive dans la place du marché.
C'est un peu épicurien, quoi.
Oui, il vit, l'idée était de démontrer les principes du cours avec les exemples concrets de la vie de quelqu'un dans un autre contexte, d'accord, médiéval, mais quand même qui rappelle beaucoup de ce que nous vivons tous les jours, tous.
Est-ce qu'il n'y a pas encore un clin d'œil à la religion? Parce que la religion, il y a des interdits, il y a les 10 commandements.
Il y a le bien, le mal.
Il y a le bien, le mal. Bon, on dit il faut pas... Tu ne tueras point, bien sûr, on ne va pas tuer le voisin qui fait du bruit. Mais il y a des commandements qui sont plus moraux. Est-ce que les frontières du domaine, c'est aussi cette moralité qu'on ne doit pas transgresser?
C'est curieux que vous le dites, parce que c'est dans la façon que je l'ai intentionné, l'idée n'était pas du tout ça. L'idée, c'était justement qu'on doit pousser vers l'extérieur, ce qui est vers l'amour, parce qu'il n'y a rien qui nous fait plus peur que l'amour. La haine ne nous fait pas peur, l'amour nous fait beaucoup plus peur, ce qui est dommage. Mais le vrai amour, le vrai amour pour autrui, le vrai amour pour l'ennemi, ça nous fait plus peur. Personne n'a peur de la haine. Porter un jugement sur quelqu'un qu'on n'aime pas, il n'y a rien de plus facile. Mais porter vraiment une pensée compatissante à quelqu'un qu'on n'aime pas, ça c'est beaucoup plus difficile. Là, on me demande un peu beaucoup, là.
Mais est-ce que justement cette difficulté, vous dites, c'est difficile, on comprend, est-ce que la difficulté ne se situe pas aussi dans le temps? Parce que acquérir ce genre de réflexe, ça ne se fait pas à la première lecture de l'ouvrage, ça ne se fait pas. C'est des années et des années comme...
Oui, ça fait 15 ans que vous êtes dessus.
Un petit 20 ans ou 30 ans, mon prof, il dit que ça commence à entrer après 10 ans.
On dit toujours un vieux sage. On ne dit pas un sage, on dit toujours
un vieux sage.
C'est peut-être pour une raison. Oui, mais justement, on n'a pas encore parlé de la partie psychologique du livre.
Non, on n'aura pas le temps, il va falloir revenir.
Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour mentionner qu'en fait, le cours parle beaucoup de notre résistance à l'amour. C'est-à-dire, il y a une partie importante de nous qui résiste à l'amour, à la présence de l'amour, qui ne le veut pas.
Et pourquoi manipulation
C'est tout simplement que
faiblesse.
C'est simplement qu'en fait l'amour représente quelque chose de plus grand que nous. Et tant que j'ai envie de rester avec une idée très très étroite de moi-même, ma personnalité, je vais plutôt vouloir rester à l'écart de l'amour et rester dans le bagarre. Il n'y a rien qui affirme ma personnalité plus qu'une bonne bagarre avec quelqu'un. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Par contre, l'amour, il faut que je compatisse, il faut que je le comprenne, et ben, ça commence à mélanger des choses, on se ressemble un peu trop à ce moment-là.
On est vulnérable, alors?
Vulnérable, mais dans le bon sens. Mmh. Ouais, dans le bon sens.
Il faut accepter sa vulnérabilité.
C'est d'une bonne part si on le fait ensemble avec un esprit d'amour, absolument, ouais. Et pas de faiblesse. C'est pas une question de faiblesse, c'est certainement pas une question non plus de s'ouvrir aux attaques des autres. Il faut être lucide quand même. Il faut pas. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire le laisser faire non plus. Ça veut dire ne pas le juger quand il fait.
D'accord. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Je vous rappelle, vous êtes sur Sarlat, au centre culturel, si on a envie de vous écouter et participer à vos cours. Et puis également, on n'a pas eu le temps d'en parler, il y a une université que vous êtes en train de mettre en place.
Une centre, si vous voulez, voilà. Un centre pour un cours en miracle. Voilà. Et je serai aussi au Maryland le soir du 28 février à 20h30.
D'accord, pour qu'on puisse vous rencontrer et discuter de tout ça avec vous. Je vous remercie Bernard Groom.
Merci beaucoup.
Merci et peut-être à bientôt. Prochainement, sachez que nous allons recevoir Isabelle Hamon.